BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. Sandra Gandoin, Lorraine Goumeau. 90 minutes business.
90 minutes business avec toute la team, avec Lorraine, avec Jean-Marc Daniel qui est déjà avec moi. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous nous avez manqué vendredi, hein. Faut pas faire ça tous les jours. Hein.
Oui, je vais me contenir.
Au sommaire de ce lundi 23 janvier, la réforme des retraites présentée en Conseil des ministres. On va écouter dans un instant le président du Métis nous donner sa solution pour garder les seniors dans l'industrie. Et puis on reviendra aussi sur l'impact de cette réforme des retraites avec Thomas Asportas. Ce sera dans quelques minutes dans le Focus. Un tiers d'entre elles sont industrielles. Elle constitue un maillon essentiel de nos économies. Les ETI sont à l'honneur aujourd'hui sur BFM Business. Les patrons sont-ils confiants? Quels sont les défis auxquels ces entreprises de taille intermédiaire doivent répondre aujourd'hui? On va en parler avec Philippe Pettini de la Banque Palatine, la banque des ETI. Ce sera dans une dizaine de minutes. Puis on parle beaucoup des entreprises aujourd'hui dans cette émission. Dans notre débat, celles qui se sentent un peu coincées entre les grands groupes et la Startup Nation d'Emmanuel Macron. Quel avenir et surtout comment valoriser les petites et moyennes entreprises? On tentera de répondre à cette question à 12h40 avec Pierre Kupferman, Jean-Marc évidemment et Lionel Roch, fondateur du groupe franco-européen qui sera avec nous. Ce sera aux alentours de 12h40. N'oubliez pas la deuxième partie de l'émission, 90 minutes business avec vous. Lorraine Goumeau sera sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr, et puis pour recruter aussi, c'est à suivre en direct à partir de 12h55. Allez, tout de suite, c'est le journal.
90 minutes business, le journal.
La réforme des retraites donc présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Le secteur de l'industrie plaide pour conserver ses seniors et protéger leurs emplois même au-delà de la retraite avec un système d'exonération de cotisations. C'est ce qu'a expliqué ce matin le président du Métis, Philippe Dornano. Le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, il était sur ce plateau dans la matinale.
Nous, ce qu'on plaide par contre, c'est que lorsqu'on dépasse l'âge auquel on peut partir à la retraite, et si on veut continuer à travailler, les gens ne veulent pas continuer à cotiser. Mais si par contre vous leur proposez de ne plus cotiser et de toucher directement les sommes, ils peuvent être intéressés. Ça représente...
C'est-à-dire qu'on touche la retraite et en plus...
Vous ne touchez pas votre retraite, vous continuez à travailler... Mais quand vous continuez à travailler, vous ne payez plus de cotisation chômage puisque vous ne pouvez plus être au chômage.
Ça augmente votre revenu net.
Et vous ne payez plus de cotisation retraite puisque vous ne surcotisez pas. Le résultat, c'est que vous allez gagner quasiment 10% de salaire en plus. Vous avez un avantage direct à continuer à travailler.
Ça a l'air un peu compliqué, dit comme ça, Jean-Marc Daniel.
Oui et non, ça correspond un peu à l'état d'esprit initial des systèmes qui s'appelaient des systèmes d'assurance, assurance chômage, assurance vieillesse. Et donc, si vous n'avez plus aucun droit au titre de l'assurance vieillesse, il est normal que vous ne payiez pas. Si vous n'avez plus vocation à être menacé par le chômage, il est normal que vous ne payiez pas. Donc, ça correspond un peu, effectivement, à ce qui avait été envisagé, notamment dans les années 50. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que l'État s'en est mêlé, l'État, lui, il n'est pas dans une logique d'assurance, il est dans une logique de racket. Et donc, on a racketté toute une partie de la population. Si on rend de l'argent, je pense qu'on incitera effectivement les gens à travailler.
Proposition validée par Jean-Marc Daniel. On entendra Olivier Dussopt nous parler tout à l'heure de l'indice senior pour les entreprises de plus de 60 salariés. Puis on va voir un peu l'impact de cette réforme des retraites dans le Focus avec Thomas dans deux minutes. En attendant, nos stocks de gaz, on s'y intéresse, il fait très froid en ce moment. Eh bien, ils sont trop remplis en ce moment. Après les risques de pénurie, c'est maintenant une question de gestion hein, sur BFM Business. Le directeur général de GRT Gaz, Thierry Trouvé, félicite les Français pour leur effort de sobriété qui a permis d'écarter tout risque de coupure. Désormais, il faut donc gérer le trop-plein. On l'écoute.
Effectivement, nos stockages sont plus remplis que d'habitude, historiquement un niveau élevé. Mi-janvier, on était à peu près à 80% de niveau de remplissage. D'habitude, à cette période-là, c'est 57%. Mais il va falloir les vider. C'est comme d'habitude.
Mais pourquoi vous videz du stock? C'est bien d'avoir des stocks, non?
Oui, c'est bien, mais nos stockages, un certain nombre des stockages français sont des formations géologiques, en fait, un peu complexes, et ils ont besoin de respirer pour garder leur performance technique. Donc il va falloir un petit peu vider ces stockages.
Vous allez en faire?
Eh ben on va l'utiliser. Le gaz qui arrive, qui est consommé en France, c'est un mélange entre celui qu'on sort des stockages et celui qu'on fait venir de l'extérieur. Si on en sort plus des stockages, on en fera venir un peu moins de l'extérieur.
On en importe moins. On va payer moins, Jean-Marc Daniel ?
C'est la logique. Normalement, on voit combien cette histoire d'énergie est extrêmement mal gérée. Tout se fait dans la précipitation, l'approximation. On entend des discours qui sont totalement contradictoires les uns avec les autres. Je pense que dans tout ça, si on revenait à ce qu'avait été l'esprit du marché initial, qui avait été le marché européen qu'on a tant décrié, consistant à dire effectivement, on permet la facturation au coût marginal, on permet aux gens de réagir sur des bases qui sont les bases du marché,
oui.
On permet aux gens de faire des stocks, on permet aux gens de raisonner sur des marchés à terme, et on laisse de côté l'État, les politiques, les sauveurs, les gens qui savent, on les laisse de côté. La deuxième remarque que je ferai, c'est quand même qu'il n'a pas fait très froid au mois de décembre. Et donc là, la météo va aider à déstocker puisqu'il se met à faire froid.
Oui.
Donc finalement, la nature nous aime bien. Elle a rempli les barrages, elle va nous permettre de déstocker. Il faut faire confiance à la nature.
Exactement. Jean-Marc Daniel n'est pas du tout inquiet finalement.
Mais pas du
situation.
Tout.
Dans ce journal également, la Chine qui est entrée hier dans l'année du lapin, l'occasion de grandes célébrations à travers le pays et des retrouvailles familiales pour les traditionnels banquiers, les premiers depuis trois ans. La levée de mesures sanitaires a permis à la Chine de célébrer nouvel an lunaire, mais le Covid est dans tous les esprits. Sébastien Le Belzic, vous êtes à Pékin.
Oui, la Chine a repris sa traditionnelle grande transhumance du nouvel an lunaire avec plus de 2 milliards de trajets prévus ce mois-ci. C'est deux fois plus que l'an dernier. Alors c'est vrai que depuis trois ans maintenant, le pays était quasiment à l'arrêt. Et donc c'est la première fois depuis 2019 que les familles peuvent se réunir. Ambiance de fête un peu partout dans le pays avec une frénésie de consommation. Vous savez, en Chine, on distribue des enveloppes rouges, des rongbao pleines d'argent liquide pour la fête. Alors forcément, toute la semaine, on va les dépenser. C'est une période de soldes et un pic pour le tourisme. Les hôtels sont pleins dans les principales destinations touristiques du sud du pays. Hong Kong aussi retrouve ses touristes chinois avec 3 millions de personnes attendues ce mois-ci. Et malgré tout, plane toujours le spectre du Covid. Les autorités chinoises ont révélé ce week-end que 80% de la population a déjà été infectée par le Covid et on redoute que ces grandes fêtes du Nouvel An ne provoquent une nouvelle vague meurtrière, notamment dans les campagnes. Des scientifiques étrangers avancent le bilan dramatique de 36 000 décès quotidiens d'ici la fin de cette semaine.
Merci Sébastien Le Belzic. Allez, c'est l'heure de notre focus comme prévu. Nous revenons sur cette réforme des retraites qui vient d'être présentée en Conseil des ministres. Thomas Asportas, au cœur de la réforme, l'équilibre financier du système. Le Haut Conseil des Finances Publiques vient de rendre son avis sur le texte du gouvernement. Thomas, quel va être l'impact de cette réforme sur les finances publiques en 2023?
Alors cette année, l'impact sera très faible pour une raison simple, c'est que la réforme, si elle est adoptée, n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er septembre. Ce n'est qu'à partir du 1er septembre que l'âge légal va être progressivement relevé de 3 mois. Et d'après les analyses du Haut Conseil, eh bien, ça va concerner 50 000 personnes cette année, donc effectivement très peu de personnes, et ça va entraîner des économies d'environ 200 millions d'euros. Mais la réforme va aussi entraîner des dépenses supplémentaires, là aussi dès cette année, chiffrées à 600 millions d'euros. Il y a 400 millions pour le relèvement de la pension minimale à 85% du SMIC net, 100 millions pour les transitions emploi-retraite, et 100 autres millions pour la pénibilité et l'usure professionnelle. Donc vous avez d'un côté 200 millions d'euros d'économies, en face 600 millions de dépenses supplémentaires, ça nous fait effectivement, à la fin, un coût pour les finances publiques cette année de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, évidemment, c'est une goutte d'eau à l'échelle des dépenses publiques dans le pays, et même comparé au seul système des retraites qui pèse, je vous le rappelle, 340 milliards d'euros de dépenses chaque année.
La réforme des retraites qui va passer par un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Thomas, est-ce que le gouvernement a revu ses prévisions macroéconomiques pour cette année ?
Alors non, il ne change pas ses prévisions, ce n'est pas une surprise, on le sait, le gouvernement est volontariste face aux incertitudes et à la conjoncture. Bruno Le Maire l'a d'ailleurs encore rappelé vendredi matin sur notre antenne depuis Davos. Et donc il garde ses prévisions, effectivement son cadrage macroéconomique issu de la loi de finances de l'automne dernier, c'est-à-dire 1% de croissance, 5% de déficit et 111% de dette. Alors à l'époque, c'était fin septembre, le Haut Conseil était très sceptique sur ses prévisions parce qu'il est jugé trop optimiste. Depuis, dans l'avis qui vient de rendre public ce matin, il reconnaît effectivement que le vent est quand même un peu plus porteur depuis quelques semaines, notamment du fait des températures, de la nature qui fait bien les choses, et donc des prix de l'énergie qui sont en net repli. Mais malgré ce contexte effectivement qui s'améliore, le Haut Conseil considère toujours, dans son avis rendu ce matin, que le gouvernement est toujours un peu trop optimiste. Sur la croissance, je le disais, le gouvernement tape sur 1%, alors que le consensus des économistes irait à 0,2%. Effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Et sur l'inflation, le gouvernement tape sur un repli cette année de 5,2% l'an dernier à 4,2% d'inflation cette année, alors que le consensus est à 4,8%. En clair, le Haut Conseil reproche toujours au gouvernement de continuer à miser quand même un peu sur des bonnes surprises, même s'il reconnaît effectivement que ces bonnes surprises sont un peu plus plausibles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a encore 4 mois lors de la présentation du budget.
Jean-Marc.
Oui, je pense que le gouvernement a raison de ne pas modifier ses hypothèses, parce qu'en réalité, ce qui va conditionner l'évolution des recettes fiscales, c'est la croissance en valeur. C'est-à-dire c'est l'augmentation de l'activité plus l'augmentation également des prix sur lequel sont alignés un certain nombre de revenus, un certain nombre d'impôts et tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, il y aura un partage peut-être qui ne sera pas exactement celui qui avait été initialement prévu, mais l'idée d'avoir une augmentation en valeur de l'ordre de 5-5,5% reste toujours d'actualité.
Merci beaucoup Thomas Asportas. On va faire un point Euronext tout de suite. Antoine Larry-Gaudry, tendance timide pour commencer cette semaine.
Oui, on aurait pu croire à une meilleure performance. C'est vrai que la semaine écoulée aura été un petit peu agitée autour de l'action des banques centrales et que finalement, celle qui s'ouvre aurait pu être un petit peu plus positive avec des dynamiques différentes, notamment les très nombreux résultats d'entreprises qui doivent nous parvenir. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on a un marché prudent, plus 0,03% pour le CAC 40 qui gravite autour des 7000 points, mais qui fait pas mieux. 6998 à l'instant. On a une hausse un petit peu plus décidée du côté de l'Eurostock 50 à plus 0,18%, mais le DAX à Francfort est en baisse. Moins 0,02%. À noter deux chiffres importants. Déjà, l'euro-dollar qui est au plus haut depuis le printemps dernier, après avoir dépassé 1,09 ce matin. On est juste en dessous là, 1,0895. Mais globalement, on est sur des lignes de force. C'est toujours la faiblesse du dollar qui joue, mais concrètement, l'euro-dollar gagne des points. On a un Brent de mer du Nord qui vient de passer le cap des 88$ après avoir gagné 3,5% sur la semaine passée. Pas impossible qu'un de ces matins, on se réveille avec un pétrole au-delà des 90. Il va falloir surveiller ça. Les plus fortes hausses de la cote parisienne, Unibail Rodamco Westfield plus 3,6%, 57,76€, Alstom plus 2,4€ à 26,33€ et Thales plus 1,79€ à 122,40€ et à la baisse des valeurs vraiment défensives pour le coup Sanofi moins 1,38€ à 89,48€ ou Air Liquide moins 0,99€ à 143,40€. Le CAC donc quasi inchangé maintenant, plus 0,01%, 6996 points et l'euro 1,0893. Sandra.
Merci Antoine. Ne bougez pas, on vous retrouve dans quelques minutes vers 12h30. Vous nous parlerez de la tech américaine tout à l'heure. Allez tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc.
90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Et 60 ans du traité de l'Elysée. Vous revenez, Jean-Marc, sur cette rencontre de ce week-end entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Qu'est-ce qu'elle dit du couple franco-allemand, Jean-Marc ?
Écoutez, nous terminons l'année Molière, là, et donc il y a une pièce célèbre de Molière qui s'appelle Amphitryon, dans laquelle il est dit 15 ans de mariage épuisent la parole, et depuis un long temps, nous nous sommes tout dit. Donc c'est 4 fois 15 ans de mariage.
Ouais.
Et donc,
il faut se renouveler.
Voilà, il va falloir se renouveler, parce qu'effectivement, je crois que la parole est épuisée, et que ça fait un certain temps que les Français et les Allemands se sont dit ce qu'ils avaient à se dire. C'est-à-dire que les Allemands constatent que les Français ne respectent pas les traités, notamment les traités concernant la construction monétaire, l'union monétaire, et que ça fragilise l'union monétaire, ça fragilise plus ou moins l'euro, avec comme conséquence qu'il y a de l'inflation qui est liée à l'évolution de la devise, il y a de l'inflation importée en Allemagne, ce qui est contraire à l'état d'esprit des Allemands. Quant aux Français, ils constatent avec une forme d'amertume que l'Allemagne, qui était un nain politique dans les années 60, est devenu un géant grâce à son économie. Oui. Une économie qui avait été fondée, qui avait été organisée autour de la monnaie. Et donc, je rappelle quand même qu'à l'époque, un mark valait 1,2 francs en 1963. Et quand on est rentré dans l'euro, un mark valait 3,6 francs. C'est-à-dire que la monnaie française avait été divisée par 3 par rapport à la monnaie allemande. Et cette puissance économique, cette puissance monétaire s'est concrétisée de plus en plus par une puissance politique, avec notamment la réunification. Alors, après les relations franco-allemandes, je donnerai juste un conseil à nos diplomates, qui est un conseil issu du général de Gaulle. En 63, il renoue avec l'Allemagne, enfin, il prêt l'amitié avec l'Allemagne, il renoue avec la Chine. Et donc, la réouverture de l'ambassade de France à Pékin a lieu en 1964, en janvier 1964. Et le général, commentant ces deux opérations devant Alain Perfitte, dans un livre qui s'appelle « C'était de Gaulle », dit « J'ai fait une grande découverte, c'est que quand on négocie avec les Allemands et qu'ils vous disent non, c'est la fin. Quand on négocie avec les Chinois et qu'ils vous disent non, c'est le début. Et donc, il faudrait que les Français apprennent à comprendre quand même que les Allemands, quand ils disent non, c'est la fin. Et en général, c'est assez fondé.
Et oui, et on y reviendra avec un exemple précis de cette rencontre qui concerne le pipeline entre Barcelone et Marseille. Ce sera tout à l'heure avec Annalisa Capellini vers 12h50. Juste après cela, Lorraine, la deuxième partie de l'émission, 90 minutes business avec vous. Ce sera tout à l'heure. On va parler de quoi, Lorraine ?
Mais c'est lundi, on va parler droit du travail. On va répondre à quelques-unes de vos questions. Vous avez été interloqué par cette proposition de passer des 35 heures aux 35,5. On reviendra-tu, bien sûr, et puis on répondra à toutes vos questions du quotidien de votre vie de bureau avec notre avocat spécialisé.
Écrivez-nous, libre antenne, sur BFM Business et sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr, et puis suivez cette deuxième partie de l'émission sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube avec Lorraine Goumeau. Dans un instant, notre invité, on vous l'a dit, c'est la journée spéciale ETI aujourd'hui sur BFM Business, et c'est Philippe Pétinil, directeur du marché des entreprises de la Banque Palatine, qui est avec nous sur ce plateau dans 2 minutes. À tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
90 minutes business, actu et notre invité aujourd'hui, vous le savez, c'est une journée spéciale ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Elles sont au cœur de la stratégie d'indépendance industrielle française et européenne. Alors cette question, comment renforcer les ETI, favoriser leur développement, débrider leur transmission? On en parle avec vous, Philippe Pétinil, directeur du marché des entreprises de la Banque Palatine, la banque particulièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Et on va commencer par ce prix, parler de ce prix avec vous, ce grand prix BFM Business des ETI avec votre Banque Palatine. En quoi est-ce important de mettre en lumière aujourd'hui les entreprises de taille intermédiaire ?
Alors oui, d'abord c'est la troisième année consécutive que nous animons avec BFM ce prix, et nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir donner un coup de projecteur sur les ETI qui sont notre passion à la Banque Palatine. Et puis il faut se rappeler que les ETI sont un enjeu essentiel pour notre pays. C'est plus de 5000 entreprises qui pèsent un quart des emplois, 35% des exportations, 26% des investissements. Et nous avons toujours un nombre d'ETI insuffisant en France par rapport à des pays comme l'Allemagne ou même comme l'Italie.
Un tiers des entreprises intermédiaires sont industrielles, non ?
Oui, un tiers sont industrielles, donc elles sont complètement clés dans l'outil de production français.
Entre la pandémie, la reprise de l'activité, le conflit en Ukraine, s'est ouverte une période d'incertitude pour les entreprises en général, bien sûr, pour les ETI également. Quels sont les grands défis auxquels elles doivent répondre en ce début d'année 2023 ?
Alors les grands défis, j'en vois trois. Il y a d'abord un défi permanent qui est le métier du patron d'ETI, le métier du chef d'entreprise, qui est de développer ses activités, de préserver ses entreprises des risques majeurs, de consolider ses acquis. Ensuite, il y a le grand défi de l'énergie. Le prix de l'énergie doit se normaliser pour être gérable par les entreprises. Mais aussi le défi de la transition énergétique qui est directement lié. Troisième chose, le recrutement, qui est peut-être le premier défi qu'on aurait dû citer, même si la difficulté à recruter est plutôt un signe de croissance et de bonne santé. Cette pénurie de main-d'œuvre nous renvoie à notre défi de formation et d'attractivité des métiers dans les entreprises.
En quoi vous, la Banque Palatine, qui avait un regard particulièrement aiguisé sur ce type d'entreprise, en quoi vous arrivez à les aider ? Qu'est-ce que vous développez pour les aider particulièrement ?
Alors nous n'avons pas la solution globale, 5000 ETI, c'est 5000 solutions. Ensuite, notre modèle, c'est la proximité du client. Donc nous travaillons beaucoup la proximité de nos clients. Nous partageons les mêmes turbulences qu'eux, et nous travaillons avec eux à trouver des solutions. Alors les solutions, elles sont sur le temps court et sur le temps long. Sur le temps court, c'est gérer la trésorerie, gérer le poste client, trouver des solutions aux difficultés immédiates qui se présentent. Puis le temps long, c'est les investissements, la structuration des financements et des conseils que nous pouvons donner, la transition énergétique, la transmission qui concerne beaucoup d'ETI puisque ce sont des entreprises familiales.
Jean-Marc.
Oui, moi j'aurais deux petites questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous pouvez nous situer votre banque dans le paysage bancaire français, parce que les auditeurs ne sont pas forcément au courant de qui vous êtes précisément. Et la deuxième, parmi les défis, vous n'avez pas cité la sortie des PGE. Or, quand on discute avec certaines entreprises qui viennent, c'est quand même une de leurs préoccupations. Vous voyez comment cette sortie des PGE, on en a beaucoup parlé au moment de l'entrée, on en parle beaucoup moins de la sortie. Comment vous voyez la façon dont ça va se passer?
Alors, il faut se rappeler que les PGE ont eu un rôle clé au moment des difficultés de la pandémie et que la situation saine de la trésorerie des entreprises aujourd'hui est aussi liée au mécanisme des PGE. Aujourd'hui, on ne voit pas d'alerte particulière sur le remboursement des PGE. Il faut savoir que nos chefs d'entreprise ont été avisés et ont prévu l'étalement du remboursement au maximum de ces PGE et qu'aujourd'hui, pas d'alerte particulière et c'est une clé importante dans la situation saine des trésoreries des entreprises qu'on observe aujourd'hui.
Et votre position dans le paysage, alors vous appartenez à quel groupe? Vous êtes...
Alors la Banque Palatine appartient au groupe BPCE. On a une activité qui est très tournée vers les entreprises et vers les ETI. Et aujourd'hui, on travaille activement avec un peu plus d'un millier d'ETI en France.
Le contexte, on l'a dit, est compliqué, mais ce qu'on s'est dit en préparant cette interview, c'est aussi que les chefs d'entreprise, finalement, sont toujours pleins de convictions, que les carnets de commandes sont plutôt bien remplis. Bref, est-ce qu'on peut dire, d'après votre regard, qu'il règne chez les patrons d'ETI une certaine confiance actuellement?
Alors, aujourd'hui, on observe quand même un certain nombre d'éléments qui sont positifs. Mmh. Les trésoreries sont plutôt saines, les carnets de commandes sont plutôt pleins, le CAC est à près de 7000 points, il n'y a pas d'alerte sur les défaillances d'entreprises. Par contre, on observe un certain niveau d'inquiétude qui grandit dans les baromètres de confiance des chefs d'entreprise, et c'est normal au vu du manque de visibilité qu'on peut avoir sur l'activité des mois à venir.
Manque de visibilité dû à la fin du conflit, notamment
le risque géopolitique est majeur aussi. On parle aujourd'hui de polycrise, donc on accumule un certain nombre de situations compliquées.
Merci beaucoup Philippe Pettini d'être venu nous voir, directeur du marché des entreprises de la Banque Palatine. Je rappelle ce grand prix BFM Business des ETI avec la Banque Palatine, les candidatures cette semaine qui vont être mises en place pour ce trophée qui sera distribué, ce sera au mois de septembre prochain.
Ce sera au mois de septembre prochain.
Voilà, merci Philippe Pettini. Tout de suite, le top 3 du web.
90 minutes business, le top 3 du web.
Et Pierre Kupferman, on commence avec vous, avec les journées d'action prévues contre la réforme des retraites. Ça continue.
Oui. En fait, tout le monde a retenu la date du 31 janvier pour la nouvelle journée de mobilisation générale. Mais d'ici là, d'autres actions sont à prévoir. Par exemple, dans les transports. Alors, jeudi dernier, on sait que la Fédération CGT Transport a déposé un préavis de grève. C'est juste un préavis. Préavis de grève pour la période qui va du mercredi 25 janvier au soir au jeudi 2 février au matin. Dans le secteur de l'énergie, toujours la CGT entend se faire entendre avant le 31 janvier avec à EDF le blocage de 5 centrales sur 18, 5 centrales nucléaires. Et ça, c'est le jeudi 26. Et puis, vous avez une grève de 48 heures qui est également prévue les 26 et 27 janvier dans les raffineries. La CGT qui invite également les dockers à cesser le travail jeudi qui vient. Juste une réaction, Jean-Marc, à ces actions spécifiques de la CGT.
On est quand même dans une logique de polycrise, comme on vient de dire. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'en 95, au moment où il y a eu les grandes grèves, tout le monde a mis en avant que c'était du fait de la réforme de la sécurité sociale et singulièrement des régimes spéciaux de retraite. Mais quand vous regardez, il y avait aussi des plans qui avaient été mis en place, des contrats de plan, on disait à l'époque, concernant la SNCF et la RATP, avec une réorganisation et avec des suppressions d'emplois assez importantes qui avaient été annoncées. Et donc, on avait cumulé les deux. Je pense que là, on va de nouveau avoir le même schéma. À la RATP, ils sont en grève pour la retraite et contre l'ouverture à la concurrence. Et donc, ils accumulent, effectivement, les syndicats accumulent les griefs et essaient d'obtenir des personnels une source de multiples mécontentements. Si vous n'êtes pas content pour ça, mettez-vous en grève. Si vous êtes content de la retraite parce que de toute façon, vous pensez que vous allez y passer, mettez-vous en grève contre la concurrence. Si vous êtes content de la concurrence parce que vous pensez que vous allez être mieux reconnu, mettez-vous en grève contre les suppressions d'effectifs. Donc, il y a une espèce de jeu qui consiste à multiplier les motifs. Donc, à partir de ce moment-là, n'en tenons pas compte.
Mais est-ce que ça ne montre pas une inquiétude des syndicats, ça, Jean-Marc, le fait de donner une date? Ça a très bien fonctionné en mobilisation, mais il n'y a pas eu de blocage. Donner une autre date, ça peut donner la même chose. Donc on va donner des micro-dates avant. Est-ce que ça ne montre pas une sorte de fébrilité de la part de la CGT?
C'est une fébrilité, c'est une recherche, effectivement, du bon outil pour obtenir satisfaction dans un contexte où elle a l'impression qu'elle n'est plus capable, elle ne sera pas capable de mobiliser durablement des gens dans la rue. 1 million, c'était déjà un exploit vu du contexte. Oui. Et donc, il y a des gens qui disaient à 3 millions, c'est ce qu'on disait l'autre jour, à 3 millions, le gouvernement démissionne. On n'en est quand même qu'à 1 million et c'est le premier jour. Donc, il faut trouver effectivement de multiples causes et de multiples mobiles et de multiples façons d'agir.
Pierre, le deuxième article est signé Marie-Cœur de Roy. Elle nous explique les conditions d'octroi de crédit immobilier qui se sont encore durcies. Avec une nouveauté, le niveau de l'épargne de précaution exigé pour obtenir un prêt.
Oui, donc désormais, en plus de l'apport personnel, dont le niveau a franchi un nouveau record, je le signale, 60 000 euros, c'est la moyenne. Mais maintenant, il faut en plus, souvent, pas systématiquement, mais souvent, pouvoir démontrer à la banque qui regarde le dossier qu'on dispose d'une épargne suffisante pour faire face à d'éventuelles difficultés de remboursement du crédit et dans laquelle on va pouvoir puiser en cas de baisse de pouvoir d'achat. Condition, je le dis clairement, sine qua non pour beaucoup de banques. Et Jean-Marc, juste comme ça, est-ce que vous avez une idée du montant d'épargne qu'exigent donc certains établissements prêteurs?
Non, mais ça signifie que les banques ne considèrent plus que l'appartement est un gage suffisant, donc ils cherchent autre chose. Donc ça veut dire que les banques anticipent une baisse du prix des appartements. Et donc ce qu'ils réclament comme gage, comme épargne de précaution, va à mon avis augmenter au fur et à mesure qu'eux-mêmes anticipent l'évolution du marché de l'immobilier. Donc je sais pas où ils en sont.
Alors l'équivalent de 12 mensualités de crédit, une année.
Une année, oui.
On va quand même préciser que pour le moment, les banques n'exigent pas que cette épargne soit bloquée.
Oui.
Et on finit avec cette étude, Pierre, qui montre que les chefs d'entreprise français sont les plus grands bourreaux de travail au monde.
Oui, alors on va être quand même un peu précis, parce que ça c'est le titre de l'article. On va être précis parce que l'étude, elle a été menée par le groupe privé d'assurance maladie londonien Bupa, oui. Mais elle porte sur 8 pays. Donc, 8 pays différents. Royaume-Uni, États-Unis, France, Émirats Arabes Unis, Égypte, Chine, Hong Kong et Singapour. On a fait le tour du monde. Mais enfin, on ignore si les patrons, cadres dirigeants, italiens, suisses, belges, travaillent encore plus que les Français. Bref, ce qui ressort en tout cas, c'est qu'en France, près de 4 dirigeants d'entreprise français sur 10 admettent travailler de longues heures intenses sans pause régulière. C'est ça la notion. Alors, on n'a pas quantifié, on ne dit pas c'est 12, 10, de longues heures sans pause régulière. Et qu'en moyenne, leur addiction au travail dépasse de 25%. La moyenne mondiale, ça vous étonne, Jean-Marc ?
Oui, ce genre de sondage, effectivement, est très, très sujet à caution. Moi, quand j'ai commencé ma carrière à l'INSEE, on demandait aux gens quelle était leur durée de temps de travail. Et ceux qui répondaient qu'ils travaillaient le plus, c'était les prêtres. Et je me souviens, mon premier chef disait, c'est normal, ils sont en communication avec leur patron jour et nuit.
C'est ça. Merci beaucoup, messieurs, pour rester sur ce plateau tout à l'heure. Dans 5 minutes, il y aura notre débat. En attendant, le rappel des titres de Stéphanie Coulon.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, la réforme des retraites a été présentée ce matin au Conseil des ministres. Emmanuel Macron a estimé hier que le gouvernement avait déjà fait preuve d'ouverture, notamment concernant l'index senior. D'ailleurs, pour pousser à travailler plus longtemps, le gouvernement menace de sanctions financières les entreprises de plus de 300 salariés qui ne respecteraient pas cet index. Écoutez le ministre du Travail, Olivier Dussopt, il s'exprimait à l'issue du Conseil des ministres.
Un index sur l'emploi des seniors qui permettra de mesurer l'implication des entreprises de plus de 300 salariés, tant pour le maintien dans l'emploi, la formation que le recrutement de salariés considérés comme seniors avec une obligation de publicité. Ce non-respect sera accompagné d'une sanction financière et avec une obligation de négociation en cas de positionnement insuffisant ou insatisfaisant sur l'index, puisque nous réintégrons l'emploi des seniors au titre des items de négociation entre partenaires sociaux obligatoires au sein des entreprises.
La réforme des retraites qui aura un impact très faible sur les finances publiques en 2023 avec un coût net estimé à 400 millions d'euros selon le Haut Conseil des Finances Publiques, un montant marginal à l'échelle du système des retraites qui pèse à lui seul 340 milliards d'euros de dépenses par an. La sûreté des installations nucléaires s'est maintenue à un niveau satisfaisant en 2022 en France. Déclaration du président de l'autorité de sûreté nucléaire ce midi qui concède tout de même des fragilités et des aléas inédits comme les phénomènes de corrosion. Par ailleurs, l'autorité prendra position sur la prolongation du parc d'EDF d'ici fin 2026. Toujours à propos d'énergie, le pipeline en construction entre Barcelone et Marseille sera étendu à l'Allemagne, annonce d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz hier à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. À terme, ce pipeline servira à transporter de l'hydrogène vert et doit couvrir 10% des besoins en hydrogène de l'Union européenne. Le fonds spéculatif Elliott augmente fortement sa participation au capital de Salesforce. Il revendique une part de plusieurs milliards de dollars dans le groupe de logiciels, groupe qui est confronté actuellement à un ralentissement de son activité. Il pourrait être en position de demander un poste au conseil d'administration. Et puis après OnePoint, Aztec s'intéresse à la division cybersécurité d'Atos. Selon le JDD, le groupe français d'ingénierie s'est positionné pour un rachat. Il se présente comme un petit groupe de patriotes visant à garantir la souveraineté de cette filiale cyberstratégique pour le pays. Le titre Atos prend 5% depuis ce matin. Et justement, jette un coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC gagne 0,12%, 7004 points, Sandra.
Merci Stéphanie Collot.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Notre débat dans un instant, mais avant cela, on va rejoindre Antoine Larigauderie à Euronext en direct avec vous. Antoine, on vient jeter un œil sur le CAC 40, mais on s'intéresse ce midi au trimestriel de la tech américaine. Et les performances sont attendues en très forte baisse pour ce quatrième trimestre, Antoine.
Oui, avec cette semaine de grosses publications, que ce soit Intel, IBM, Microsoft, Tesla, bon, qui est un petit peu particulier. Mais évidemment, on attend sur cette période des performances en très net recul. Les performances boursières de la high-tech américaine en auront été témoins. On le rappelle, hein, le Nasdaq a perdu 33% sur l'ensemble de l'année, mais clairement, c'est le reflet d'un exercice qui aura été particulièrement difficile. Tenez, rien que pour Microsoft sur le seul quatrième trimestre, résultat à venir demain. Hein. On attend la plus faible croissance du chiffre d'affaires en 5 ans, plus 2,5% à 53 milliards de dollars et la première baisse des bénéfices en 8 années, moins 7% pour le bénéfice par action à 2,31 $, avec une croissance qui ralentit alors dans strictement tous les domaines, logiciel, hardware, cloud, après un point culminant à la mi-2021. Alors ça, c'est clairement la digestion de la période Covid où au contraire l'activité avait cru de manière spectaculaire avec d'excellentes perspectives, le tout avec des coûts opérationnels qui augmentent désormais, et Microsoft pourrait donc lui aussi confirmer des réduction d'effectifs, hein, 5% des postes à travers le monde, donc une grosse douzaine de milliers d'emplois. Alors que les effectifs de Microsoft, justement, avaient largement augmenté pendant la période de pandémie, ça illustre la violence du retournement de cycle, les inquiétudes qu'on peut avoir autour de l'économie américaine de manière générale, puisque l'exposition aux perspectives de croissance la techno y est extrêmement, extrêmement réactive. Et puis, enfin, et peut-être même le centre névralgique de cette réflexion, Jean-Marc Daniel aura peut-être quelque chose à dire là-dessus, mais le fait que l'argent n'est plus gratuit et que maintenant alimenter à fond perdu des divisions qui ne font que de la recherche sur des tas de choses qui ne sont pas immédiatement rentables, ben, pour l'instant, ça dégage parce que le cycle est en train de se retourner et il faut se reconcentrer à nouveau sur ce qui est essentiel et sur ce qui rapporte de manière immédiate.
Jean-Marc ?
Oui, je pense qu'effectivement, le fait que l'argent coûte maintenant de plus en plus cher fait que les investisseurs et les entreprises sont obligés de regarder avant de se lancer dans des opérations de grande envergure. Alors, on va retrouver les licenciements boursiers. Je pense qu'on va avoir droit. Alors, comme ça se passe aux États-Unis, on en parle moins en France, mais l'expression de licenciement boursier va de nouveau être dans le circuit parce que les entreprises, maintenant, vont passer de la phase innovation à la phase gestion, cost-killing. Et je pense que c'est moins un retournement de cycle qu'un palier. On a atteint un palier, on est une forme de transition et on va être dans une situation où, certes, certains vont perdre de l'argent et ils disparaîtront, mais surtout, globalement, tout le monde aura des rendements, des revenus, des retours qui seront moins importants que dans la phase d'ascension.
Antoine, un commentaire ?
Oui, d'autant que ce qui peut paraître inquiétant, c'est qu'on a ces activités de croissance qui sont pénalisées de manière générale, et on le voit aussi bien à Paris avec le secteur du luxe que la high-tech au niveau mondial, hein, par cet environnement de taux plus haut. Mais ce qui est inquiétant concernant Microsoft et concernant Google ou même Amazon, c'est que certaines activités qui constituaient des, entre guillemets, rentes, j'aime pas trop le mot, mais vraiment le cœur de métier qui rapporte des revenus récurrents, hein, sur lesquels justement on peut puiser de la trésorerie pour ensuite investir, ben ces activités-là, elles sont en perte de vitesse, et je pense notamment au cloud chez Microsoft. Même chose d'ailleurs du côté de chez Amazon.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Allez, dans un instant, notre débat. On parle beaucoup d'entreprises aujourd'hui, hein, sur BFM Business. Comment redonner du sens à la mission des PME? On va en parler dans un instant avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman sur ce plateau, et Lionel Roch, le fondateur du groupe indépendant et familial Franco-European, qui est avec nous. C'est dans un instant. À tout de suite.
90 minutes business, le débat.
Notre débat aujourd'hui dans 90 minutes business actu, comment valoriser les petites et moyennes entreprises. On va en parler avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et Lionel Roch, fondateur du groupe indépendant et familial Franco-European. Je me tourne vers vous en premier, Lionel Roch. Entre les startups, la Startup Nation d'Emmanuel Macron et les grands groupes, est-ce que les PME, les très petites entreprises aussi, sont laissées sur le bord de la route d'après vous?
Elles sont pas laissées sur le bord de la route, elles sont totalement ignorées. Emmanuel Macron est arrivé en 2017 avec un discours qui était très pro-entreprise. Assez vite, on s'est aperçu que pour Emmanuel Macron, les entreprises, c'était les entreprises de l'high-tech, dont on voit là que les résultats sont moins brillants qu'escomptés. Les multinationales et les start-up. Et il voulait même faire Start-up Nation, ce truc exceptionnel. C'est-à-dire, faut l'individualisme forcené sur lequel quelques-uns vont peut-être gagner des milliards, et il voulait faire une nation là-dessus. Et là-dessus, voilà, les entreprises, les PME, les TPE, mais aussi les artisans et les commerçants, étaient totalement méprisés. Après est arrivé faut se souvenir quand même de tout le séquençage qu'on a eu, c'est-à-dire gilets jaunes, première réforme des retraites, Covid, quoi qu'il en coûte, vendu comme si c'était l'argent du gouvernement. Après, on a eu le monde d'après, ça qui a été une truc absolument fabuleuse. Personne n'expliquait ce que c'était, mais tout le monde a compris que c'était ne plus travailler. Après, donc, on pouvait plus recruter. Puis, ça a continué là-dessus avec... il n'y avait plus d'essence. Explosion de l'inflation. Le gouvernement qui nous expliquait qu'on devait payer plus nos salariés, comme si on a besoin du gouvernement pour savoir qu'on doit payer au maximum de ce qu'on peut les salariés. Et tout ça arrive à un moment où on nous dit, maintenant, on va faire une réforme des retraites. Donc, on va encore déstabiliser les PME, les TPE, les commerçants. On a une explosion des matières premières. On trouve pas de salariés. Et ceux qu'on a et qui bossent, et qui vraiment, pour qui c'est dur parce que faut qu'ils bossent deux fois plus, on va les empêcher encore de travailler avec des grèves, avec. Donc, je crois qu'il y a un moment où il faut dire stop.
On va revenir à ce que vous défendez, le travail, la façon de les avantages de ces petites entreprises. Pierre, on va remettre les choses dans l'ordre. Notre pays est un pays de petites et moyennes entreprises.
Alors c'est un pays de très petites entreprises, très avant petites tout quand même, puisque s'en est créé, on va rappeler le chiffre, plus d'un million, même en 2022, ça c'est un record. En revanche, les PME, on rappelle la définition des PME, hein, c'est effectif 10-250 salariés, chiffre d'affaires pas plus de 50 millions d'euros. Les PME restent quand même un petit peu le maillon faible de la France, en tout cas quand on se compare à l'Allemagne, qui est quand même le pays avec lequel on se compare le plus souvent. On en recense combien en France? Un petit peu moins de 150 000. Elles emploient au total 4 millions de salariés, génèrent un quart de la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises. Et puisqu'on va parler ensemble des difficultés auxquelles elles sont confrontées, oui, que ce soit effectivement la fin du quoi qu'il en coûte, le remboursement des PGE, l'envolée du coût des matières premières, de l'énergie, juste un petit rappel sur un chiffre tiré du bilan annuel d'Altares sur les défaillances d'entreprises. 3214 PME mises soit en liquidation, en redressement judiciaire ou au mieux en procédure de sauvegarde. Alors on n'est pas, je précise, encore au niveau de 2019 pour les PME, mais ce qui inquiète quand même, c'est l'accélération qu'on a observée sur le dernier trimestre de l'année dernière.
Lionel Roch, une réaction à ces chiffres.
Alors d'abord, ce qu'on appelle les très petites entreprises, c'est des très très petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont pas de salariés, globalement.
Jusqu'à 10.
Non, non, oui, mais ça c'est les TPE, mais ce dont on parle du million de créations, c'est une personne.
C'est beaucoup d'auto-entrepreneurs.
Et qui n'est pas salarié, en plus, qui est auto-entrepreneur.
Qui n'est même pas salarié. Et donc, c'est
pas que. Hein.
Voilà, et c'est là-dessus où, à partir du moment où on attaque systématiquement le travail, des jeunes ne veulent plus travailler, donc ils créent leur entreprise, sauf que ça fait rarement des succès. Et ça veut dire que les entreprises qui sont installées, les entreprises qui peuvent avoir des fonds propres, les entreprises qui pourraient investir ne trouvent pas de salariés. Et à côté, le gouvernement est fou de joie de nous annoncer, bah regardez qu'est-ce qu'il y a comme création. Ces entreprises, vous aurez des taux de défaillance, mais au-delà de tout. Et puis, c'est aussi un moyen, et le gouvernement, ça date depuis Nicolas Sarkozy, aime beaucoup ce genre d'entreprise parce que en fait, on nous envoie un message en nous disant mais c'est pas grave, il y a plein de charges, il y a plein de contraintes, mais vous avez qu'à faire bosser ces entreprises et comme ça, vous n'avez plus de salariés. Et se pose la question, d'ailleurs, de la retraite pour ces entreprises-là qui ne cotisent pas. Donc, voilà. Donc, on ne traite pas le problème. On ne peut pas trouver de salariés parce qu'on laisse attaquer de façon scandaleuse la valeur travail constamment. On a quand même eu le droit à la paresse. Mais il n'y a personne qui hurle quand Sandrine Rousseau sort le droit à la paresse. Mais si tous on fait jouer notre droit à la paresse, il n'y a plus Sandrine Rousseau. Parce que c'est quand même les entreprises et leurs salariés qui génèrent de la richesse et qui permettent qu'ils viennent nous donner des conseils. Donc, la valeur travail, oui. Les entreprises, on en a besoin. Mais sauf s'il y a un autre schéma, mais je ne l'ai pas vu, l'autre schéma pour l'instant. Donc, on a besoin des entreprises, on a besoin des salariés et on a besoin que les PME soit défendu par l'État et pas constamment de réinventer d'autres règles, une espèce de bureaucratie sur laquelle on ne peut pas y faire face. Donc on nous met constamment des règles.
Jean-Marc.
Oui, non, je crois que sur l'histoire de la valeur travail, d'abord, il y a eu des réactions, ne serait-ce que celle de Fabien Roussel, qui est à la tête d'un parti qui se réclame des travailleurs.
Un communiste. Le seul qui a réagi, c'est un communiste.
Oui. Et donc, c'est ancien, parce que le droit à la paresse, c'est un texte de la fin du 19e siècle. Et donc, déjà, il y avait tout un tas de gens qui disaient qu'on a un droit de la paresse, avec la réponse qu'avaient faite à l'époque les leaders socialistes à partir d'une citation de Voltaire qui disait que le travail permet de réduire l'ennui, permet de réduire les besoins et permet de réduire les vices. Donc il y a quand même, c'est pas aussi net que ça. En revanche, moi je vais dire deux choses qui me frappent sur la situation actuelle, c'est que depuis des années, il y a des rapports qui expliquent que le seuil des 50 est une espèce d'aberration intellectuelle, ne serait-ce que parce que effectivement, quand on regarde la gestion d'une entreprise, on a vraiment besoin d'un DRH, on a vraiment besoin de nouvelles structures à partir de 78, 80, 85 salariés. Qu'à 50, un chef d'entreprise peut continuer à connaître son personnel, connaître la faction dont fonctionne son entreprise, et il est bloqué, il se heurte au fait qu'à 50, brutalement, on va demander énormément de choses qui pénalisent et qui vont les citer à ne pas recruter. Donc quand on regarde le nombre d'entreprises de 49 salariés, c'est absolument sidérant. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'on n'arrête pas effectivement de promettre aux entreprises, donc « My government is pro-business », c'est la formule célèbre donc de Manuel Valls, c'est devant... Alors c'était en Angleterre à une époque où les Anglais disaient on va dérouler le tapis rouge pour permettre aux gens qui veulent créer des entreprises de venir en Royaume-Uni, et la réponse était my government is pro business. Or sur un cas très simple, très concret, qui c'est cette histoire d'impôt de production, on en a supprimé une partie, on sait bien qu'il y a c'est une aberration économique et une aberration intellectuelle, et de nouveau on est en train de freiner la réforme, de retarder la réforme, de dire c'est peut-être pas la première urgence. Donc je crois que pour répondre à ce que vous dites, il y a deux choses, c'est les 50 et les impôts, et qu'il faut être très concret, très précis, c'est ça que, enfin je pense que les PME devraient réclamer, c'est la fin des impôts de production, la fin du seuil à 50.
Le temps file, Lionel Roch, en deux minutes, dites-nous ce qu'il faudrait faire pour sauver ce tissu des PME aujourd'hui. Où va l'urgence ?
Alors, d'abord, c'est qu'on reconnaisse la valeur travail et que ça soit une priorité nationale. C'est-à-dire que...
Mais ça ne concerne pas que les PME, ça.
Oui.
Ça ne concerne pas que les PME.
Mais de toute façon, alors je suis persuadé, si vous voulez, qu'on doit tous être solidaires.
Absolument.
De Bernard Arnault jusqu'à l'artisan, si tout vous voulez, fait. Ça s'appelle les entreprises.
Oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et quand on commence à nous dire, ah ben, il suffit de taper sur les milliardaires, en général, ça finit sur les PME d'ailleurs, là-dessus. La valeur travail, absolument, qu'on reconnaisse ceux qui travaillent. Et je ne parle pas là de moi, je parle de mes salariés, qu'on les reconnaisse, qu'on arrête d'emmerder ceux qui travaillent. C'est-à-dire que quand il y a une grève, on a des restaurants dans le groupe, quand on a une grève, ils s'emmerdent nos salariés, ils vont siphonner l'essence de leur mobilette pour remettre dans l'eau, tout ça. Mais qu'on leur foute la paix. Je veux dire, ils sont en train de travailler, c'est eux qui nourrissent ce pays et on les emmerde constamment. Et en plus, quand ils rentrent le soir, on leur explique que ce qu'il faut, c'est aider de la soupe sur les tableaux. Il y a un moment où le gouvernement doit dire la priorité absolue, c'est le travail. Et donc, il va falloir quand même baisser les charges salariales et les charges patronales, puisque c'est le seul moyen. Nous, on est au maximum. C'est-à-dire qu'après, dans la restauration, par exemple, en ce moment, on ne veut même pas regarder combien on perd, parce qu'on perd de l'argent dans la restauration aujourd'hui. Donc, nos salariés doivent gagner plus, et on ne peut pas les payer plus cher. Donc, il va falloir commencer à jouer sur les charges patronales et les charges salariales. Surtout que moins il y a de gens qui bossent, plus ça veut dire qu'on va augmenter les charges. Mais que ça soit les héros, les vrais héros du quotidien, c'est ceux qui bossent dans les boîtes aujourd'hui.
Ça c'est dit sur ce plateau. Merci, merci messieurs, merci Jean-Marc, merci Pierre, merci Lionel Roch d'être venu nous voir. Vous revenez merci quand vous voulez. Aussi. Fondateur du groupe indépendant familial Franco-European. Annalisa, jette un œil sur le monde, notre chronique internationale. Et on revient sur ce projet pour commencer. Annalisa, le H2Med, le pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille qui va être étendu à l'Allemagne. On en parlait avec vous, Jean-Marc, tout à l'heure. C'est issu de cette rencontre entre le couple Emmanuel Macron-Olaf Scholz, Annalisa.
Exactement, l'annonce a été faite hier. L'Allemagne va donc rejoindre le projet H2Med, un projet de pipeline européen d'hydrogène vert qui incluait déjà le Portugal, la France et l'Espagne, avec deux liaisons différentes, une première terrestre entre le Portugal et l'Espagne et une deuxième sous-marine entre l'Espagne et Marseille, en France. Des structures donc qui vont permettre à la péninsule ibérique de renvoyer le gaz vers l'Europe de l'Ouest. Le pipeline va être opérationnel en théorie d'ici 2030 et il aura la capacité de transporter chaque année 2 millions de tonnes d'hydrogène vert, ce qui représente à peu près 10% du total de la consommation de l'UE.
Alors c'est certes un projet ambitieux pour commencer à décarboner le continent européen, Annalisa, mais pas seulement, il y a d'autres enjeux.
Tout à fait, tout le monde y trouve son compte, hein, finalement. Tout d'abord l'Espagne, qui va devenir un leader de l'hydrogène vert en Europe, mais aussi l'Allemagne, qui ainsi peut s'affranchir un tout petit peu plus de la Russie et de sa dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. Mais surtout, inclure l'Allemagne à ce projet ambitieux permet d'envisager davantage de fonds européens dans le cadre de REPowerEU, le projet de la Commission européenne, pour davantage d'indépendance énergétique en Europe. Des fonds qui peuvent s'avérer essentiels, parce que ce projet est très coûteux. Il va coûter à peu près 3 milliards d'euros.
Merci. Merci beaucoup. Annalisa, un petit mot. Non, Pierre, vous vouliez réagir?
C'est juste une façon d'exporter le soleil de la péninsule ibérique vers l'Allemagne qui en manque. Parce qu'au bout du bout, c'est quoi l'hydrogène vert? C'est quand même des centrales solaires. Des centrales éoliennes, bien sûr, mais des centrales solaires dans ces pays qui vont produire de l'hydrogène vert pour l'industrie allemande.
Jean-Marc?
Oui, non, mais le solaire, le vent, tout ça, c'est le soleil. Et tout le monde doit se souvenir que je suis très attaché au soleil comme producteur d'énergie.
Merci beaucoup, messieurs, d'être restés sur ce plateau. Tout de suite, 90 minutes business avec vous.
90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
Oui, la libre antenne de l'économie avec vous, Lorraine Goumeau, sur les réseaux sociaux en direct. Vous recrutez et vous répondez aux questions grâce à votre expert, Lorraine.
Oui, c'est la libre antenne. Aujourd'hui, c'est Nicolas Léger qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes avocat au cabinet Proskauer. Avec nous, sur une question d'actualité dont vous avez sans doute déjà parlé, Sandra, c'est cette idée du Modem qui proposerait de passer aux 35,5 heures par semaine. Alors, ça vous fait déjà réagir sur les réseaux. Continuez à nous envoyer vos réactions et vos questions. Alors, moi, j'aimerais vous demander, Nicolas, quel impact potentiel pour les entreprises ce passage à une demi-heure de plus du temps des 35 heures?
Un impact assez important, en fait, Lorraine. Tout d'abord, si on fait travailler les gens 35h30, il va falloir les rémunérer 35h30. Ça veut donc dire une hausse, une augmentation des salaires, avec en contrepartie, évidemment, une augmentation de la productivité. Mais également un autre aspect qui serait une révision nécessaire des contrats de travail, voir ce que contiennent les contrats de travail et voir ce qu'une loi contiendrait s'agissant du passage à 35h30 et donc une augmentation du temps de travail, mais également et surtout de tous les accords collectifs. Aujourd'hui, on a des salariés qui travaillent 35 heures par semaine, mais beaucoup relèvent en fait d'accords de modulation ou d'aménagement du temps de travail. Et il faudrait revoir le nombre de JRTT, la façon dont on procède, avec maintenant un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui serait non plus 35 heures, évidemment, mais 35h30.
On imagine toute la paperasse, pardon de le dire comme ça, toute l'administratif qu'il faudrait pour augmenter d'une demi-heure. Est-ce que on a une idée du temps de mise en place d'une telle mesure pour une demi-heure de plus par semaine ?
Ce serait sûrement assez long. Un aspect paperasse, comme vous avez dit, ça c'est certain, mais aussi un aspect assez important, négociation avec les organisations syndicales.
Et oui.
Et dans un contexte qui serait tout de même assez particulier. On a déjà la réforme des retraites avec l'opposition syndicale qu'on constate quasiment tous les jours. On aurait derrière de nouvelles négociations à mener sur un allongement de la durée du travail.
Voilà, et bien on va continuer à répondre à vos questions sur ce sujet. Écrivez-nous aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine, si ça vous fait réfléchir, si ça vous travaille d'un point de vue RH, d'un point de vue administratif et puis d'un point de vue juridique. Évidemment, on sera là pour répondre à vos questions.
Voilà, Lorraine Goumou, retrouvée dans deux minutes en direct sur les réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook. Vous pouvez réagir sur cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr, poser toutes les questions que vous voulez également. Quant à moi, je vous retrouve demain midi avec toute la bande. Bonne journée sur BFM Business.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.